Bonsoir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de la poursuite des opérations de traque des rebelles ougandais de l'ADF par les forces armées de la République démocratique du Congo. Comme deuxième sujet, nous parlerons du moratoire de 45 jours accordé aux transporteurs de Kinshasa de se conformer aux exigences de l'autorité publique concernant la mesure interdisant notamment au taxibus 207 d'accéder à la commune de la Gombe. Tels sont les thèmes de ce soir dans la tribune de la presse. Trois confrères seront avec nous dans cette émission. Il s'agit de Saïd Mbalanga, éditeur de La Tchopo, un hebdomadaire paraissant à Kinshasa et dans l'est de la RDC. Bonsoir Saïd Mbalanga.
Bonsoir confrère, comment ça va?
Ça va bien, merci. Eliezer Tamboué, vous êtes vous journaliste à la RLTV, une télévision qui n'aimait plus. Bonsoir Eliezer Tamboué.
Bonsoir confrère.
Et enfin, nous sommes avec Trésor Makunya Mouindo, journaliste à la radio Mitumba d'Uvira et correspondant au sud-kivu de Sifia Grand Lac. Bonsoir Trésor Makunya.
À toutes et à tous, bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. L'opération de traque des rebelles ougandais de l'ADF par les forces armées de la République démocratique du Congo et le moratoire de 45 jours accordé aux transporteurs de Kinshasa de se conformer aux exigences de l'autorité publique concernant la mesure interdisant notamment aux taxibus 207 d'accéder à la commune de la Gombe figure parmi les sujets ayant fait les unes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons par l'offensive contre les EDF, les FDLR et les groupes armés dans l'est de la RDC. Les FRDC lancent Sokola 1 à Beni annonce l'avenir. L'opération Sokola 1, qui a été lancée par le chef d'état-major général des FRDC le 16 janvier 2014, est dirigée par le commandant des opérations, le général Bauma Ambamba de la 8e région militaire. Pilotée par le commandant suprême, cette opération exclusivement congolaise, avec seul les FRDC sur terrain, vise à neutraliser tous les groupes armés sans exception. Le potentiel précise que les FRDC opèrent en solitaire. Du début à la fin, aucun soldat de l'armée ougandaise ne traversera la frontière pour porter main forte aux FRDC. Il n'y a jamais eu d'opération conjointe de l'armée congolaise avec celle ougandaise contre les rebelles des EDF, a précisé samedi 18 janvier le porte-parole des FRDC, le général Léon Kasunga. Forum des As ajoute que les EDF ont enregistré plusieurs dizaines de morts et qu'ils ont été mis en déroute par la force de frappe des loyalistes. Les forces négatives ougandaises ont été délogées de toutes les chefferies du secteur de Wataling et chassés de la région de Kamango, leur bastion. Selon la tempête des tropiques, les populations locales ont jugé insuffisant l'apport de la MONUSCO dans les opérations contre les groupes armés irréguliers et ont souhaité la voir engager sa brigade d'intervention dans la traque des rebelles EDF. S'exprimant sur le sujet, le général Alberto dos Santos Cruz, commandant de la force de la MONUSCO, a réaffirmé le soutien de la MONUSCO à l'armée congolaise. Parlons à présent du sursis de l'interdiction faite au bus 207. La mesure prise par le commissaire provincial Célestin Kanyama interdisant la circulation au centre-ville de la commune de la Gombe des véhicules de marque Mercedes 207 est finalement suspendue, annonce la tempête des tropiques. Les responsables de ces taxibus ont 45 jours pour se conformer aux contrôles techniques, question de sécuriser les passagers et l'environnement contre tout accident causé par une quelconque défaillance technique. L'Avenir soutient que c'est à l'issue de la rencontre entre le premier ministre Matata Ponyo et le gouverneur de la ville André Kimbuta, qu'il a été décidé d'accorder un sursis à ces véhicules Mercedes 207, communément appelés esprit de mort. En croire le ministre Kalumba, ministre des Transports et Voies de Communication présent à la dite réunion, ces véhicules vont continuer à circuler jusqu'à nouvel ordre. L'observateur pense que la mesure d'interdiction de ces bus avait provoqué un tollé général à Kinshasa, tant elle avait quelque peu perturbé la circulation routière à Kinshasa le mardi 21 janvier. Le potentiel ajoute que la décision a été prise à la suite des nombreux accidents de circulation enregistrés sur les artères de la capitale.
Merci Alain Rongo, Saïd Mbalanga. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Tchopo, un journal qui part à Kinshasa et à l'est de la RDC. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par la victoire et la qualification des Léopards de la RDC au championnat d'Afrique des Nations Chan. Un petit commentaire par rapport bien sûr à cette victoire et qualification.
Moi, je me souviens que quand j'étais à Kisangani, quand je voulais à Kisangani, quand je suis à Kisangani, je me rendais au stade de Mumba pour suivre des rencontres de football de haute qualité. Il y avait des joueurs comme Jeff Batoko, comme Luc Mawa qui a évolué même. Je me souviens, Luc Mawa avait marqué un but à partir d'un coup franc depuis le centre. Depuis le centre, paf, il y a eu goal. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si il y a des joueurs professionnels qui sont bien formés et qui peuvent faire face. Moi, j'ai suivi la rencontre entre RCD et Burundi.
RDC, bien sûr.
RDC et Burundi. Mais quand le Léopard accélère Kinshasa à l'époque, même dernièrement ici, mais le Burundi, c'est rien du tout. Mais hier, on a vu Diable Rouge du Congo devant la Libye. 2-0. Mais tout au long du match, on voit que la Libye a récupéré et a abattu le Diable Rouge. Et moi, je dis que, mon Dieu, cette fois-ci aussi, les Burundis doivent nous battre les grands Congo. Nous sommes grands et nous devons être grands en tout. Vous comprenez? Bon, voyons voir, hein, mais il faudrait quand même qu'on mette les joueurs à l'aise. Que les joueurs soient encadrés, qu'on leur donne un peu d'argent, qu'ils logent dans des bons hôtels, qu'ils mangent équilibré pour qu'ils soient efficaces sur le terrain, à ce que je sache.
Eliezer Tamboué, vous êtes journaliste à la radio-télévision RLTV, une télévision qui n'émet plus, puisque nous sommes toujours dans le domaine du sport. Quelles sont les chances que vous accordez au Léopard de la RDC pour ces chaînes, bien sûr?
Merci, confrère. Je salue d'abord tous les auditeurs de la Radio Capi. Moi, je crois que j'ai une lecture toute contraire par rapport à ce que les confrères venaient de dire. Je crois que nous avons des joueurs qui font l'effort. Parce que vouloir prendre l'exemple des Léopards à son temps, ils vivaient dans quelles conditions? Et aujourd'hui, ces gens-là ont été d'abord chassés de l'hôtel où ils logeaient avant que la compétition ne commence. Il a fallu faire des gymnastiques pour que quelque chose arrive. Je crois que nous avons de bons joueurs. Le jeune Messier qui a marqué le débit, Messier Mundele. Avant, il a raté le penalty. Et c'est là aussi que nous demandons aux Congolais d'être patients quand le match commence. Il ne faut pas être trop bouillant, trop brutal. Admettons que si certains voyous allaient peut-être piller, comme c'est l'habitude parfois dans les mondes de sport, aller piller sa maison, ils pouvaient rebâtir la maison au même moment. Donc j'ai dit non. Jean-Marc Makusu Mundele, il a fait quand même quelque chose. Et si ces joueurs-là, surtout si on mettait à la disposition de Moutoubi, les Santos, les moyens, c'est quoi qui va relever le défi? Il a défié Patrick Neve, qui était entraîneur ici. Il a défié, ils ont battu la Mauritanie. Et c'est comme ça, s'ils mettent les moyens, je crois que les prochains tours, la victoire sera la nôtre.
Eliezer Tamboué, je reviens à vous tout à l'heure dans l'émission. Trésor Makunya Muindo, vous êtes journaliste à la radio Mitumba d'Uvira et correspondant au Sud Kivu du cycle à Grand Lac. Quels sont les grands sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine à Uvira au Sud Kivu?
Oui, je voudrais revenir sur le sport parce que, le match était suivi avec un double intérêt. Non seulement que l'équipe nationale devrait affronter une équipe adverse, mais je ne peux pas n'importe quelle équipe adverse. C'est le Burundi, ce pays voisin dont la capitale Bujumbura n'est pas très loin d'ici à Uvira. Donc, à moins d'une heure, on peut atteindre ce point-là. Ce qui fait à ce que certains joueurs burundais soient des enfants de Uvira. Même certains fans du football ironisaient en disant que généralement la partie est le pays qui va jouer contre la partie de l'Ouest. Explique Daniel que le problème, certains fans du football utilisent le fait que certains jeunes talents évoluent dans certains jeunes talents n'évoluent pas dans l'équipe nationale. Donc, l'équipe nationale ne va pas très loin en recrutant des joueurs à l'intérieur des provinces. Il y a des talents, je vous assure, mais lorsqu'on se fie uniquement dans des clubs qui sont à Kinshasa et on laisse ailleurs les autres joueurs, ils seront plus vite récupéré par d'autres sélections, d'autres sélections étrangères pour aller montrer de quoi ils sont capables. Moi, je m'attendais exactement à ça parce que j'ai confiance au Léopard, nos joueurs, nos plus grands joueurs, mais les plus grands joueurs de savoir conserver, voir en dirigeant essentiellement.
Et l'actualité à Uvira?
À Uvira, outre la condamnation d'un militaire pour viol d'un mineur, la semaine passée, l'actualité était également dominée par l'arrestation de quatre de nos collègues journalistes, dont trois de l'association de la RTNC. Pendant plus de 5 heures, ils ont été détenus le vendredi dernier au cachet de la police nationale congolaise. Les collègues journalistes ont été reprochés d'avoir cité à tort un policier comme présumé auteur de deux personnes de la mort des deux personnes tuées la veille par un militaire. Et nous avons fustigé localement en tant que professionnels des médias, c'est que la loi sur la presse accorde à toute personne lésée par la diffusion d'une information le droit de la démentir ou de donner une réponse. C'est que la FOMC n'a pas pu faire, mais s'est précipité à incarcérer les journalistes. Les magistrats, justement, continuent à nous rappeler des zones, des endroits où la force est prise.
Trésor Makounia?
Oui.
Trésor Makounia, nous revenons à vous dans notre premier thème de l'émission de ce soir. Nous passons directement, bien sûr, à ce premier thème. Au Nord Kivu, les FRDC poursuivent leur offensive contre les rebelles de l'ADF actifs dans le territoire de Beni. Hier jeudi, une semaine après le lancement de l'opération de nettoyage du secteur, le commandant de la 8e région militaire et de cette opération se dit satisfait. L'armée a pris le contrôle de plusieurs positions de ces rebelles ougandais et compte bientôt les récupérer toutes. Papy Marcel Moukeba.
Les forces armées de la RDC contrôlent plusieurs positions des rebelles ougandais de l'Alliance démocratique pour la libération ADF. Ceci, 7 jours après le lancement de l'opération Sokola pour leur désarmement. Un motif de satisfaction pour le commandant de la 8e région militaire. Selon le général Lucien Baouma Ambamba, l'armée progresse vers d'autres positions des ADF. Il n'y a pas de trêve dans l'opération Sokola, précise-t-il. Général Lucien Baouma Ambamba.
Il n'y a pas de trêve, nous continuons les opérations. Mais de toutes les façons, je vous dis que nous avions déjà terminé la première phase. Ça évolue très très bien, il n'y a pas de problème. Il y a des capturés, il y a des morts. Nous sommes en train de progresser. La population, qu'il soit tranquille, nous allons continuer jusqu'à la fin. Nous allons terminer avec les ADF.
Cette assurance du général Baouma, commandant de la 8e région militaire, se justifie par la progression des FRDC sur les terrains de combat. Selon des sources sécuritaires et militaires, après l'occupation du sanctuaire de Mwalika la semaine dernière, les FRDC viennent de fermer toutes les entrées des ravitaillements des ADF vers Chuchubo, Makoyova 1 et Makoyova 2. Ces villages sont considérés comme des quartiers généraux de ces rebelles ougandais. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Seyle Mbalanga, quelle est que vous faites de ces opérations militaires?
J'applaudis à haute voix. J'espère, comme le général Bamo a dit, que l'opération se poursuit et elle doit se poursuivre. Parce que si encore des poches de résistance des groupes armés dans l'Est, c'est comme si quelqu'un a une épine sous la plante des pieds. Il ne saura pas marcher convenablement. J'applaudis cette démarche, je félicite cette démarche, et je crois que le gouvernement de la République doit encore mettre du paquet pour que ce groupe-là rentre chez eux, les ADF Nalu. C'est un groupe ougandais.
Aujourd'hui, ce sont des ADF, puisqu'il semble que les Nalu sont au pouvoir en Ouganda.
Mais justement, c'est-à-dire que ce sont des Ougandais.
Il n'y a plus que des ADF aujourd'hui.
Ce sont des Ougandais, au lieu d'évoluer chez eux, au lieu qu'on fasse des rébellions, c'est comme si quelque part, ils ne sont pas contre le gouvernement ougandais. C'est comme si quelque part, ils sont chez nous, en train de chercher les matières premières pour qu'ils deviennent riches en peu de temps. Nous croyons sincèrement à la force de frappe des FARDC et j'applaudis cette démarche. Je dis Dieu merci, accompagner les forces armées jusqu'au bout.
Élisée Tamboué, Seyle Mbalanga applaudit la démarche des FRDC. Mais aujourd'hui, on constate que du moment où les FRDC sont en train de poursuivre leur offensive militaire, les ADF sont en train aussi de renforcer leur position pour faire face aux FRDC. Comment est-ce que vous analysez cette attitude?
Merci beaucoup, confrère. Je crois que nous avons tout intérêt de comprendre d'abord que la victoire des FRDC, ce n'est pas la victoire des FRDC. C'est notre victoire, nous, en tant que Congolais. D'où nous avons tout intérêt, je ne vois pas un seul Congolais qui ne peut pas appuyer son armée dans une guerre comme celle nous imposée par cette coalition ougando-burundais-rwandais. Parce que c'est la question que moi je me pose, c'est celle de savoir, est-ce qu'avant de lancer l'opération, ils ont cherché à travailler sur le moral de nos militaires. Après les coups, les chocs que ces militaires-là ont connus avec la disparition de Mamadou Ndala. Parce que dans l'armée, ils doivent aussi comprendre une chose. Si on va dans l'armée, on va servir la nation. On ne va pas là pour faire le vedette. C'est moi qui dois paraître. C'est moi, la victoire doit m'appartenir. Parce qu'avec ça, on va démoraliser tout le monde et les gens vont lâcher. Moi, je crois qu'il fallait commencer par réarmer moralement nos militaires avant de procéder à l'opération. Cela ne veut pas dire que on doit laisser l'ennemi progresser. Mais sachez-les, chers confrères. Nous suivons, c'est comme le combat de catch. Quand vous voyez qu'un catcheur est en train de taper sur l'autre et que l'autre se laisse faire, ce n'est pas pour autant qu'il est faible. Il est en train de récupérer le souffle pour se relever. Il ne faut pas que ces gens-là, qui semblent être un peu faibles, puissent nous surprendre un jour ou l'autre. Qu'est-ce que le commandement de l'armée est en train de faire en rapport avec ça? Et aussi les stratégies militaires. Pour avoir la stratégie, la victoire que nous avons connue avec le général Didier Toumbaï et Mamadou Ndala qui venaient de mourir. On n'a pas fait une forte campagne par rapport à ça parce que ce sont des stratégies militaires. Nous avons découvert qu'il y a ce qu'on appelle pomme verte après la victoire. C'est la même chose. On doit mettre à l'aise nos militaires avant de lancer l'opération. Et aussi savoir le moral de nos militaires. Est à quel niveau après l'assassinat de Mamadou Ndala, après le décès de Mamadou Ndala. Si cela n'arrive pas, bon, ils seront là et nous allons commencer à faire des tapages comme quoi on a récupéré les positions à gauche et à droite, mais la guerre ne se termine toujours pas.
Trésor Makounia, certains analystes politiques estiment que les opérations militaires contre les ADF telles que menées par les FRDC ne réussiront jamais tant que les voies politiques et diplomatiques ne seront pas mêlées. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue?
Bien évidemment, vous savez, il semble à ce jour que le dialogue du côté Ouganda et ADF ne présage pas une issue favorable de la crise, mais je crois qu'il faut en tout cas rechercher des solutions diplomatiques dans ce sens que ces pays, l'Ouganda, trouvent autour d'une table de compromis avec leurs compatriotes. Malheureusement, au Congo, avant le malheur de toujours vivre la mort dans l'âme, les anciennes opérations désordonnées, c'est-à-dire pour les citoyens. Lorsqu'on visionne les opérations qui viennent 1 et 2 à Manilé ou en passant par Amani Kadifou, la liste risque d'être longue. Bien sûr que chaque opération, chaque zone a son propre contexte. Il faut très bien étudier pour s'en sortir. Il convient alors de faire la part du mythe et de la réalité. Il faudrait soigner la malaria par la fièvre qui n'en constitue que les symptômes annuels au risque de faire un traitement symptomatique. Qu'est-ce que je veux dire? Réussir ces genres d'opérations nécessite pour nous de savoir de quels moyens les EIS et SARM ont été d'altitude d'exploitation des ressources naturelles congolaises. Rassurez-vous que ces minerais ne sont pas vendus dans des zones de contrôle et traversent les frontières. Comment et par quel canal? C'est une question à laquelle chacun de nous doit répondre pour bien encercler ces groupes armés et tant d'autres au nord et au sud qui violent, qui émergent, volent, pillent les biens de la population. Souvenez-vous donc de ces 21 personnes dont les enfants tués sauvagement dans les villages de Moussoukou, Mwenga, dans le territoire de Béni, au nord Kivu, en décembre dernier. Ce qui, Samuel, me pousse à croire qu'il faut donc arriver à réduire la base socio-économique de ces mouvements qui œuvrent dans le commerce transfrontalier après avoir noué des relations avec divers groupes armés locaux et des autorités. Rappelez-vous un rapport de International Crisis Group qui disait que cette implantation dans une zone grise a permis aux EIDF de survivre sans gagner une bataille depuis plus de 15 ans, d'avoir été vaincu à plusieurs reprises, mais jamais neutralisé. Et donc, les EIDF ont toujours été combattus, jamais ils n'ont vaincu, mais ils n'ont jamais été neutralisés. Pourquoi? C'est ce qui pousse beaucoup de gens à dire qu'il y a des complicités avec des groupes armés locaux, mais aussi avec certaines autorités congolaises hautement placées. Et donc, il faudra vérifier tout ça partout. Il faut voir parce que nous avons besoin de solutions durables et non annoncer une opération qui ne pourra aboutir à rien. Il faut chercher effectivement des solutions durables pour essayer un peu d'alléger la souffrance de ces nombreuses populations du nord et du sud qui ont tant souffert et souffert des affres de la guerre et de ces groupes armés étrangers qui laissent leur territoire pour venir se venger sur nos populations ici. Et qu'est-ce que nous faisons? Les réveils n'est que tardif. Donc, comme je l'ai toujours dit, il faudra voir comment réformer nos services de sécurité, armés, policiers, agents de renseignement. Il faut aussi muter les responsables militaires commis dans des zones où se trouvent ces ADF qui ont longtemps duré là-bas. Sinon, nous resterons là juste pour crier, pleurer, organiser des deuils sans rien résoudre. C'est pourquoi j'applaudis personnellement ces opérations auxquelles nous souhaitons plein succès. C'est le moment de nous unir. De nous unir en tant qu'opposition, en tant que mouvance présidentielle, en tant que société civile, pour porter main forte à l'armée nationale qui est en train de défendre le territoire national envahi par un groupe armé étranger. Bien sûr, comme vous le disiez, Samuel, il faudra une solution diplomatique, mais pour le moment, nous avons d'abord besoin d'une paix. Et la paix, c'est combattre ces militaires, les exterminer si possible, parce qu'ils n'ont plus de se rendre.
Merci.
Après qu'ils se soient, après qu'on ait effectivement rendu inefficace, il faudra voir des diplomatiques.
Merci.
Pour qu'ils puissent parce qu'ailleurs, on a battu, on a combattu, mais ils sont restés.
Merci Trésor Makounia. On vous garde encore dans cette émission. Saïd Mbalanga, plusieurs observateurs pensent que la communauté internationale doit faire pression sur l'Ouganda pour mettre fin au phénomène ADF. Pensez-vous que cela soit possible?
Cher confrère, je vois que ce théâtre a trop duré. Je me souviens que depuis 2000, les Ougandais et les Rwandais se sont bagarrés chez nous en larmes lourdes à Kisangani. Il y a eu des morts. Si vous connaissez Kisangani, si vous arrivez à l'hôpital général de Kisangani, il y a la morgue. À côté de la morgue, il y a une fosse commune où on ne connaît même pas le nombre des citoyens innocents tués par les armées rwandaises et ougandaises à l'époque à Kisangani. Les gens ont souffert et jusqu'à aujourd'hui, il y a des séquelles. Il y a des moments qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes d'estomac. Il y a des familles qui ont été dépourvues de leur intimité familiale. Vous comprenez? Alors, depuis 2000, jusqu'à vous avez 14 ans, que nos voisins, l'Ouganda et le Rwanda, ne nous laissent pas en paix. Si réellement la communauté internationale aime le Grand Congo, nous sommes convaincus qu'on peut d'abord imposer au Rwanda d'avoir à négocier avec, pas que chaque pays a sa rébellion. Les FDR, ce sont les rebelles rwandais Hutu qui ont fui à l'époque où on avait tué le président Habyarimana et son frère du Burundi. Les FDR, ce n'est pas une rébellion de chez nous, c'est une rébellion de contre les régimes établis au Rwanda Kigali. Mais que le Conseil national impose également, fasse pression également au président du Rwanda pour qu'il s'associe avec ses frères autour d'une table pour discuter dossier Rwanda.
Aujourd'hui, nous parlons de l'Ouganda.
Mais c'est la même chose, papa. À gauche, l'Ouganda, à droite, le Rwanda. Si réellement il y a des pressions qu'on doit faire vis-à-vis du président de l'Ouganda, qu'on le fasse à haute voix au-dessus de tout le monde. Qu'on ne fasse pas un travail en sourdine sur la table pour dire que voilà, nous voulons. La communauté internationale a le pouvoir, à travers des pressions diplomatiques, des pressions médiatiques, pour demander à l'Ougandais de rappeler à l'ordre ses frères ougandais rebelles. Vous comprenez? Chez nous, au Congo, on le fait, mais pourquoi pas chez les voisins? Toujours, depuis 14 ans, depuis 94, depuis plus de 20 ans, les concitoyens de la République habitant l'Est ne sont plus à l'aise, ne vont plus au champ. Et il y a des familles qui sont dépourvues des minimums pour envoyer des enfants à l'école. Que la communauté internationale, parce que l'ONU existe, que l'ONU impose la loi, que l'ONU impose la loi, que l'ONU vient à la rescousse des grands lacs pour que chacun évolue dans son pays et aille de l'avant. Vous comprenez, mon frère? Laissons le théâtre, allons dans le concret des choses.
Oui, Salim Balanga, je reviens à vous. Eliezer Tamboué, traquer les rebelles de l'ADF, c'est bien, mais est-ce que ces opérations peuvent vraiment durablement pacifier et sécuriser cette partie du Nord Kivu, aussi longtemps que l'on ne mettra pas encore totalement en œuvre l'accord cadre d'Addis Abeba pour en finir une fois pour toutes avec tous ces mouvements rebelles de l'Est de la RDC?
Bon, je me pose d'abord la question qui doit mettre en pratique les accords d'Addis Abeba. Ici, la question n'est pas celle-là, chers confrères. Nous devons d'abord chercher à savoir. J'ai entendu les gens parler de la diplomatie. Et je ne sais pas comment les gens considèrent ou comment ils considèrent. Qu'est-ce qu'ils entendent par la diplomatie? La diplomatie, c'est le fait de quitter son pays pour chercher quelque chose en dehors de son pays, ce qui manque dans son pays, ce qui manque à l'intérieur. Aujourd'hui, si nous avons la brigade d'intervention, ce n'est pas la diplomatie. Quand nous avons ici les casques bleus ici, ce n'est pas de la diplomatie. Moi, je crois que nous devons comprendre par moment les termes que nous utilisons. La question est celle de savoir à quand l'entrée en action de la brigade d'intervention. Parce qu'on a fait beaucoup de tapages ici, qu'il fallait que la brigade vienne. La brigade est là depuis certains temps. La brigade a quelle mission? C'est pour traquer les rebelles. Ce n'est pas pour que le général Bauma commence à dire que non, voilà, nous avons lancé l'opération avec, bien sûr, la complicité de l'état-major général, l'opération Sokola 1. Si ce n'était que pour ça, Pourquoi la brigade est venue là-bas? Il ne faut pas que les drones qu'on nous a fait, qu'on a fait encore le tapage pour lesquels, que ça ne soit pas des éléphants blancs pour endetter davantage le pays comme autrefois, où le pays était devenu le pays pauvre et très endetté. Ce n'est pas normal. Moi, je crois que quand on veut parler de la diplomatie, la diplomatie, elle est là, elle est agissante parce que nous avons plus de 18, je ne sais pas si je me trompe, plus de 18 000 casques bleus sur les sols congolais. Nous avons la brigade d'intervention qu'on attendait, qu'elle avait mission de traquer les rebelles aux frontières. Pour preuve, il y a eu même des drones. Quel est le résultat? Prenons même la question en rapport avec l'assassinat de Mamadou ici. C'est le rapport de ces drones-là qui pouvait nous donner la vérité par rapport à ça. Mais nous restons, ce sont les mêmes militaires congolais que nous avions et que nous avons trouvé que leur force était insuffisante. Il fallait faire appel à une force étrangère. C'est là qu'est venue les brigades et tout ça. L'application des accords d'Addis Abeba, c'est bien bon. Quel est le contenu de ces accords-là? Aujourd'hui, Barack Obama se limite à faire des déclarations comme s'il s'attaquait à Paul Kagame. Il suffit seulement qu'il donne un mot d'ordre. Ça va s'exécuter automatiquement. Yoweri Museveni qui s'est caché, c'est lui que la même communauté internationale avait imposé comme médiateur, alors qu'il est agresseur dans les conflits en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il quitte, Kampala est fini, après avoir emmagasiné de l'argent de la RDC. Merci. Et voilà, il se retire, il commence à larguer les gens. Moi, je crois que nous devons avoir une force, une forte armée dans notre pays, et c'est ce qui fera mieux, et nous attendons l'entrée en action de la brigade.
Trésor Makounia, nous clôturons ce sujet avec vous. Quelles sont selon vous les chances de réussite de ces opérations militaires lancées contre les ADF?
Exactement, Chabel. Je crois que les chances de réussite dépendront effectivement de l'analyse des anciennes opérations qui ont échoué, et comme je le disais, on a connu d'autres opérations. Sokola n'est pas la première opération. Et quand on parle de Sokola 1, je me demande s'il y aura encore un autre Sokola, Sokola 2, 3, 4, je ne sais pas jusqu'où nous irons avec ce genre d'opérations. Vous disiez quelque chose par rapport à la communauté internationale. Je crois que parfois on doit avoir honte d'essuyer les oreilles de la communauté internationale. On ne doit pas être toujours faible, on ne doit pas toujours être des gens qui doivent crier, pleurer chaque jour. Lorsque vous êtes attaqué sur votre territoire, vous avez une armée qui doit être forte. Je crois que c'est la défense. Il y a d'autres États qui sont attaqués et qui ne demandent pas à la communauté internationale ou à d'autres des solutions immédiates. Ils interviennent d'abord, ils matent les rébellions, puis ils demandent à la communauté internationale d'intervenir plus tard. Et donc, moi, je crois que nous devons renforcer, comme on disait, nos services de sécurité, la police et l'armée. L'armée doit être très forte, l'armée doit être standardisée. On doit payer les militaires très bien parce qu'ils ont prouvé effectivement qu'ils peuvent bien se combattre, qu'ils peuvent bien protéger le territoire de la République. Aussi simplement, certaines conditions sont respectées. Par rapport à ces opérations, on disait, et une agence crise a dit que ce n'est pas la première opération contre les ADF. Depuis 15 ans, les ADF ont toujours été combattus, et ils ont toujours été battus, ils ont toujours été vaincus, mais jamais neutralisés. Pourquoi, selon vous? On va voir aussi comment éliminer certaines complicités de part et d'autre, et des autorités ougandaises, et des autorités congolaises qui appuient effectivement les ADF pour qu'ils finissent. Cela vaut également pour toutes les autres opérations contre les FDLR et contre les groupes armés nationaux, parce que du moment que les rebelles peuvent être en train de partager les soutiens avec quelqu'un qui est en train de sécuriser, ça pêche toujours contre certaines opérations. Donc, nous devons être sérieux dans les opérations, parce que c'est au nom et pour le compte de la population que tout est fait pour sécuriser la population qu'on a juré de protéger jusqu'à la toute dernière énergie. Je crois personnellement, Samuel, il faudra voir plusieurs contextes dans ce sens et afin que nous puissions espérer au moins un jour à la disparition de toutes les forces armées étrangères qui continuent à s'activer ou réactiver dans nos pays. Il faut avoir le FNL, le Burundi, il y a les ADF qui sont en Ouganda, il y a les FLR du Rwanda. Donc on dirait que chaque pays déserte ses rebelles ici.
Merci.
Pour gérer ou pour nous attaquer, et qu'est-ce que nous faisons? Rien, nous pleurons alors que nous avons l'armée qui doit être très forte. Heureusement que tout a commencé, tout le Japon et FARDC qui ont gagné le 1-23, et tout le Japon
qui
continue de gagner les ADF. Et merci, j'espère que ça pourra démarcher, nous aurons au moins des à Béni et ailleurs.
Merci, Trésor Makounia. Nous passons à notre deuxième sujet de l'émission de ce soir. Transport en commun à Kinshasa. Les transporteurs ont 45 jours pour se conformer aux exigences de l'autorité publique. Ce moratoire tombe après l'annonce mercredi dernier par le commissaire général de la police sur nos antennes de l'application dès ce vendredi des mesures interdisant notamment aux taxibus 207 d'accéder à la Gombe. À l'issue de cette réunion avec le premier ministre, le même jour, l'après-midi, le gouvernement provincial de Kinshasa fixe l'opinion à travers son porte-parole, la ministre provinciale de la communication. Tous les véhicules, quel que soit leur état technique, peuvent continuer à circuler sur toutes les artères de Kinshasa, y compris dans la commune de la Gombe. Thérèse Olenga est jointe ici par Michel Kifindangoy.
Les mesures seront certainement en vigueur, mais il y a un moratoire qui a été accordé de manière à permettre aux uns aux autres, notamment aux conducteurs, aux propriétaires de ces taxibus, de pouvoir se mettre en règle. Ils ont donc 45 jours et pendant ces 45 jours, ils devront s'organiser que leur véhicule porte les couleurs qui correspondent aux couleurs qui sont édictées, que leur véhicule soit en bon état, les pare-brises cassées, remplacées, les phares, etc. Ils devront répondre à l'exigence du contrôle technique. Il n'y a pas de moratoire en ce qui concerne le respect du code de la route. Aucune autorité ne peut dire, écoutez, allez d'abord commettre des bévues et 45 jours après, je vais commencer à faiblir.
Le commissaire général de la police, de son côté, confirme la dernière position prise par l'autorité politique. Il précise que la police n'a pris aucune décision et que même la première émanée de la même autorité politique qui vient de la sursoir. Pour le général Charles Bissingimana, la police est prête à exécuter les mesures prises dans ce secteur à n'importe quel moment. Eliezer Tamboué, comment est-ce que vous analysez cette décision de l'autorité publique au sujet de la circulation des bus 207 au centre-ville de Kinshasa, qui en moins d'une semaine vient abroger une autre précédemment prise par les autorités politiques de la police?
Bon, vous constatez vous-même aussi, et les auditeurs de la radio Kwapi ont compris que, en tout cas, on ne sait pas si réellement les gens qu'on place à des postes de responsabilité sont ces gens-là qui devraient y être. Dans ce sens que, dans cette mesure, il y a eu beaucoup de contradictions. Il y a la première mesure qui est sortie comme quoi on ne peut plus importer les véhicules qui datent de plus de 10 ans. On leur a posé la question si un véhicule qui subit à tout moment les contrôles techniques ne peut pas circuler. Ils n'ont pas compris. Et la deuxième décision tombe, c'est le général Kanyama qui l'annonce. Et les Congolais distraits commencent à s'attaquer au général Kanyama. Le véhicule, on les appelle comment? Ce sont les esprits des morts. Et le même esprit, il y a deux termes qui circulent à Kinshasa. C'est esprit des morts et mal à l'aise. La plupart des commandants de la police qui font n'importe quoi, on les appelle mal à l'aise. C'est pas ça, c'est l'esprit des morts. Est-ce que Kanyama peut-il s'élever comme ça de sa maison et prendre une décision? J'ai dit non. Il a mission d'exécuter. C'est peut-être les Congolais qui comprennent très mal la décision interdisant l'accès en ville des bus 207. C'est un problème. Alors que la grande agglomération, c'est dans la cité. Massina, nous l'appelons comment? C'est la Chine populaire parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous dites que non, comme ici il y a des bureaux, nous sommes en ville, on n'a pas besoin de mourir, nous envoyons la mort à la cité. C'est une mesure impopulaire, une mesure irresponsable. Ici, vous sentez aussi une contradiction. Le ministre de Transport et Voies de Communication, il a dit que on a suspendu jusqu'à nouvel ordre. Mais madame Thérèse Olenga qui dit que c'est pour 40 jours, même pour la peinture. 45 jours. Qu'est-ce que ça a à voir, les dossiers de la peinture? Qu'est-ce que ça a à voir? Et vous vous rappellerez, confrère, que la fois passée, pour qu'on mette la peinture, ces mêmes messieurs-là qui gèrent, ce sont eux qui ont ouvert leur petite société pour mettre la peinture, pour sucer de l'argent au peuple congolais. Même pour ce qui concerne les contrôles techniques, ça va s'effectuer dans quelle société, qui appartient à qui? Parce qu'il ne faut pas qu'on crée des dossiers pour faire des histoires. Regardez sur le boulevard du 30 juin, nous sommes ici en ville avec vous. La plupart des véhicules qui font des accidents, ce ne sont pas les véhicules, le bus 207. Ce sont les jeeps par moment des patrons qui reviennent de leurs ambiances ivres ou des responsables. Moi, je crois que le problème est ailleurs et qu'il ne faut pas qu'on donne l'occasion aux gens de faire n'importe quoi.
Oui, Saïlé Mbalanga, est-ce que vous croyez que cette décision au sujet des véhicules 207 a été prise à la hâte sans pourtant que les autorités de la ville de Kinshasa l'aient évaluée et étudiée en aval ou en avance?
Cher confrère, merci. Moi, je crois que nous devons travailler méthodiquement. La première démarche qui a été applaudie par tous les Quinois, c'est celle concernant l'opération Likofi contre les Kuluna. Je ne sais pas, aujourd'hui, quelques quartiers sont sécurisés. On a neutralisé ces Kuluna, mais là, il fallait qu'on fasse quand même un état de lieu global pour savoir si, quelque part, ces Kuluna résistent à la pression de l'autorité établie. Ça, c'est la première démarche. La seconde démarche, oui, il peut y avoir la propriété. Oui, on peut, l'autorité peut se réveiller un jour pour dire qu'on a contrôlé le véhicule. Alors que ça se fasse méthodiquement. Au niveau de Kinshasa, il existe un gouvernement provincial dirigé par le gouverneur. Le gouverneur a des collaborateurs qui sont la police et certains services de sécurité. Pour arriver à poser un tel acte, il a fallu dès le départ qu'il y ait une réunion au cours de laquelle on prend les dispositions pour arriver à des résultats escomptés. Alors, les taxibus que nous voyons, mais ça date de longtemps que ces taxibus n'ont pas l'expertise voulue. Les propriétaires des taxis ou taxibus, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne voient que à chaque fin de la soirée, bon et contiboni. Mais votre véhicule qui transporte la population, qui transporte les âmes humaines, est-il à bon état? Vous, en tant que propriétaire, avant que l'État n'intervienne, vous, en tant que propriétaire, qu'est-ce que vous faites de votre véhicule qui quitte le matin Kinshasa Nyasuka pour faire autant de courses où l'argent est partagé, ça vous savez, vous ne le savez pas, entre le patron et les collaborateurs. C'est-à-dire entre le patron du véhicule et les chauffeurs et les bons chauffeurs. Vous comprenez? Alors nous disons franchement qu'on remette le train sur les rails pour qu'on évolue calmément, pour qu'il n'y ait pas de casse à ce que je sache.
Trésor Makunya, cette situation du transport en commun est aussi perceptible en province. Et comment vous analysez cette mesure prise par les autorités de Kinshasa? Est-ce qu'elle était vraiment opportune?
Bon, Samuel, je me dis, avec l'expérience personnellement que j'ai vécue à Kinshasa, c'est une mesure qui est opportune, mais les mesures d'application patinent toujours. Parce que lorsque vous regardez, on dit que ce sont des bus qui ne doivent plus circuler à Gombe. Comme qui dirait Kinshasa ni ISC, des bonhommes ISC, les gens qui circulent là-bas, ce ne sont pas de personnes. Est-ce que c'est seulement à Gombe qu'il y a des gens qui méritent de vivre? Est-ce que c'est seulement dans des bureaux administratifs, là, chez vous, qu'il y a des gens qui méritent de vivre? Est-ce que c'est seulement à Kinshasa en entièreté qu'il y a des gens qui méritent de vivre? Alors qu'il y a dans d'autres villes, le problème, c'est pour... Je prends personnellement le cas d'Ouvira, où pratiquement il n'y a pas de taxi-bus ou de taxi pour ce genre de transport. Les seuls maîtres à bord, ce sont des motards. Mais lorsque vous regardez les véhicules qui transportent des gens vers des villages, ils les font dans des conditions déplorables. Ou par exemple, d'ouvrir à 5 sur une distance de 60 km, une voiture de 4 places vous transporte 10 personnes, sans compter les marchandises qui s'éloignent. C'est même pour les véhicules, pousseaux et autres qui voyagent vers d'autres coins de Fizi, on ne sait pas distinguer les transports de personnes et de marchandises. Ce qui est plus pire, c'est que nos policiers des roulages couvrés à des postes de contrôle se contentent juste des petites sommes d'argent que les conducteurs leur remettent. Vraiment, est-ce que ces sommes peuvent être comparées à la vie de ces passagers que l'on met en danger et qu'on laisse être transporté à la guise des transporteurs et de leurs patrons qui ne se soucient que de l'argent et non de la vie des humains? Les tests d'alcool et les restes n'est même pas à l'ordre du jour. Ce qui ramène effectivement le débat au pays sur le rôle même de la police de circulation routière qui devrait réglementer la circulation. Je voudrais un peu attaquer les conditions d'octroi des permis de conduire qui ne sont pas vraiment respectées et surtout le contrôle technique. On ne contrôle pratiquement rien. Vous allez juste au garage indiqué, ben, peu ou presque pas de contrôle, vous payez, paf, le document, vous êtes délivré. Comment allons-nous améliorer les conditions de transport chez nous quand le gouvernement, à part ce qu'il a déjà commencé à Kinshasa, n'améliore même pas lui-même ce secteur? On n'a pas des bus du gouvernement pour pallier le problème de transport parce que on voit déjà au niveau de l'initiative privée, on nous apporte des véhicules qui ne sont pas à l'état d'être transportés. Certains des véhicules même du gouvernement, de certains services administratifs sont vêtus à part quelques-uns leur remis par des ONG. Donc le chemin par rapport à ce secteur-là demeure encore très long au pays et tous sommes des acteurs pour l'améliorer. Lorsque vous arrivez dans d'autres capitales, à Dakar, au Sénégal, par exemple, où j'ai été en octobre dernier, vous voyez que ça va mieux. À Kigali, dans le, même si on ne veut pas citer le Rwanda, mais à Kigali, ça va déjà. À Harare, au Zimbabwe, on a vu que tout marche bien. Pourquoi pas à Kinshasa? Même si la comparaison n'est pas raison, j'espère tout simplement que nos autorités voyagent aussi. Ils voient ce qui se passe ailleurs. Pourquoi ils ne peuvent pas copier chez nous? Donc, toutes les mesures interdire les 207. Oui, Samuel, interdire les 207 et les autres, c'est placer la vie de l'homme au centre. Donc, la vie de l'homme n'est pas seulement à Gombe, n'est pas seulement à Kinshasa. La vie de l'homme est partout. Du Congo, d'où il faut rendre les services administratifs, les services de roulage responsables du travail que l'on fait. Et nous, les patrons de ces taximens, nous devons être responsables de nos conditions de circulation, des conditions de nos véhicules, parce que c'est la vie qui est en danger.
Trésor Makounia, je vais vous demander de conclure. Alors, selon vous, que faut-il pour assainir le secteur du transport en commun à Kinshasa partout en RDC? Quelle est la mesure palliative alors?
La République démocratique du Congo a des textes légaux clairs à ce secteur. La République démocratique du Congo a des policiers de roulage. Il faut qu'ils fassent correctement leur travail et non juste se limiter à recevoir le pourboire. On appelle ici chez nous les rapports. Donc, vous passez juste, vous saluez le policier, voilà. En le saluant, donc, vous insérez un peu de sous dans la main et vous les récupérez. On ne sait même pas si ce sont les papiers qu'on leur donne. Et donc, moi, je me dis, si ces policiers sont responsables de leurs actes, si ils font correctement leur travail, et ça va aller. Parce que le conducteur sait déjà très bien
Merci.
Que non, on a 10 postes et je vais donner à chaque poste 500.
Merci, Trésor Makounia.
Avec le permis, avec le contrôle technique, ça va aller. Donc, c'est pas sérieux quand même.
Merci, Trésor Makounia. Eliezer Tamboué, je vous demandais aussi de conclure, puisque nous sommes à la fin de l'émission, pour assainir le secteur de transport en commun à Kinshasa et surtout au centre-ville, quelles pourraient être les mesures palliatives en deux mots?
La rigueur dans la gestion de la chose publique, c'est-à-dire la délivrance des permis de conduire. On doit savoir à qui est-ce qu'on donne le permis de conduire. L'autorisation des transports, qui les délivre, il y a des conditions. Dès lors qu'on a délivré, on n'a plus le droit d'interdire à cette personne, sinon c'est marcher sur la liberté des autres. Et aussi comprendre, tel qu'on venait de dire, que la mort n'est pas qu'en ville. La mort est partout et nous devons protéger tout le monde. Je crois que avec l'application de tout ça, et aussi bien encadrer ceux qui se mettent sur la route, au lieu de contrôler, ils se mettent à percevoir de l'argent de part et d'autre.
Saïlem Balanga, une conclusion, que faut-il pour assainir le secteur de transport à Kinshasa et dans le reste du pays?
Les amis ont conclu, j'applaudis. Moi, je vais plutôt conclure côté sport. Je crois qu'avec les grands coups réussis par Matata, il a réussi 30 000 fictifs sur la liste de la paie des fonctionnaires de l'État.
Merci.
Avec ces 30 000 fictifs, l'argent, on doit le récupérer, renforcer l'équipe nationale pour que l'équipe nationale puisse gagner.
Nous parlons du transport en commun.
Le transport en commun, j'ai dit ceci, que les amis ont conclu, j'abonde dans le même sens, et j'ajoute, en tant que sportif, qu'il faut sécuriser les lopards pour qu'ils rentrent tête haute dès l'heure que le challenge est terminé. Voilà.
Merci beaucoup, Saïli Mbalanga. Et c'est la fin de cette émission, Tribune de la Presse, une émission qui vous était présentée par Samuel Kachak, Mouhadia, Paul Badianyama était à la technique, Alain Irung était à la coordination et à la réalisation de cette émission, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15, heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur les antennes de Radio Okapi.